un petit peu de lumière, voilà.
Et prendre un petit peu de soleil, et puis s'étirer, et puis c'est parti.
Ah ben, on va tenter de prendre le soleil.
Le moteur.
Eh ben, merci, et puis on va remettre notre marinière, hop.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Hello, comment ça va bien les amis?
Ça va bien.
Alors vous savez, on est tous amis.
Oui.
L'amitié franco-suisse n'est plus à défendre, hein, vous le savez quand même, depuis des centaines d'années.
Depuis le temps qu'on traîne chez ces Français.
Malgré nos caractères quand même bien différents, hein, ben, on est potes, hein, on se tape sur l'épaule, hein, on rigole ensemble, on se fait des fondus, c'est super cool. On se fait même des nouveaux amis, on crée des liens, on tisse des réseaux, ça s'appelle. Alors en parlant de réseau, moi j'ai les miens, j'ai un vrai réseau de vrais amis. Et grâce à ce réseau, et en parallèle au Téléthon de ce week-end donné au 36-37, donc à côté de cela, et dans le cadre de notre programme d'intégration des étrangers en Suisse romande, je vais moi aussi faire un appel à la radio, comme pour le Téléthon, mais pas un appel aux dons, hein, pas d'argent entre nous, non, pas de ça. Un appel à la réflexion, au partage, au débat peut-être, ou même peut-être à la découverte, et ceci en matière de violence policière, de prévention contre les drogues et de la protection de la jeunesse. Et peut-être qu'après, c'est moi qui ferai un appel pour qu'on me recueille, moi. Bref, alors, dans mon réseau d'amis, j'ai recueilli le témoignage d'un professeur français. Alors, écoutez bien, ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. Ça s'est passé réellement le 17 novembre dernier dans une école en France.
Lundi 17 novembre 2008, 10h30, école des métiers du Gers. Je fais cours quand tout à coup, sans prévenir, font irruption dans ma classe quatre gendarmes décidés, accompagnés d'un maître chien affublé de son animal. Personne ne dit bonjour, personne ne se présente. Sans préambule, le chien est lancé à travers la classe. Les élèves sont extrêmement surpris. Je pose des questions aux intrus, demande comment une telle démarche en ce lieu est possible. On ne me répond pas. J'insiste, on me fait comprendre qu'il vaut mieux que je me taise. Les jeunes sont choqués, l'ambiance est lourde, menaçante. J'ouvre une fenêtre qu'un gendarme, sans rien dire, referme immédiatement, péremptoirement. Le chien court partout, mord le sac d'un jeune à qui l'on demande de sortir. Le chien bave sur les jambes d'un autre terrorisé, sur des casquettes, sur des vêtements. La bête semble détecter un produit suspect dans une poche, et là encore on demande à l'élève de sortir. Je veux intervenir une nouvelle fois, on m'impose du silence. Les sacs sont vidés dans le couloir, on fait ouvrir les portefeuilles. Ces intrusions auront lieu dans plus de 10 classes et dureront plus d'une heure. Une trentaine d'élèves suspects sont envoyés dans une salle pour compléter la fouille. Certains se retrouvent en caleçon. Parmi les jeunes, il y a des mineurs. Dans une classe de BTS, le chien fait voler un sac. L'élève en ressort son ordinateur qui ne fonctionne plus. On lui dit en riant qu'il peut toujours porter plainte. Ailleurs, on aligne les élèves devant le tableau. Au dire de ceci et du prof, le maître chien lance. Si vous bougez, il vous bouffe une artère et vous vous retrouvez à l'hosto. Il y a des allées et venues incessantes dans les couloirs. Des gendarmes sont en poste devant les classes. J'apprendrai par la suite qu'aucun événement particulier dans l'établissement ne justifiait une telle descente. La stupeur, l'effroi ont gagné les élèves. Ils m'interrogent une fois, la troupe partie. Je ne sais que dire, je reste sans voix. Aucune explication de la direction, pour le moins très complaisante. Je comprends comment des gens ont pu jadis se laisser rafler et conduire à l'abattoir sans réagir. L'effet surprise scie les jambes. Au-delà de l'aspect légal ou illégal de la démarche, c'est l'attitude des gendarmes. Très impolis, menaçants, ironiques, agressifs, méprisants, sortant d'une classe de BTS en disant « Salut les filles », alors que bien sûr il n'y a que des garçons, les félicitant d'avoir bien caché leur cam et abusé leur chien. À vrai dire, des marlous de vrais durs n'auraient pas agi autrement. C'est en France, dans une école en 2008. Je me dis que ces gens-là, les gendarmes, devraient accompagner les gens, les soutenir, qu'ils devraient être des guides lucides et conscients. Au lieu de ça, investis d'un drôle de pouvoir, ils débarquent, on dirait des cow-boys, ils terrorisent les jeunes, ils sont comme des chiens. J'aurais voulu que ça se sache, car ça arrive chez nous, dans nos écoles, et c'est franchement inadmissible. Voilà, c'est signé un professeur qui ne manque jamais de faire dans sa classe une prévention qu'il juge intelligente contre la drogue. Merci.
Alors ce prof, il a voulu que ça se sache, un réseau s'est fait pour ça, ça s'appelle la solidarité. Ces opérations de police, moi je les ai vécues aussi quand j'étais au lycée, mais rassurez-vous, en Suisse ça n'arrivera jamais. Alors, moi, je prends la défense de personne. Hein. Je suis neutre, hein. J'habite en Suisse. Je fais tout comme vous maintenant. Je dis rien ou juste, bah ouais, hein, c'est comme ça. Et plus, en plus, en Suisse, c'est différent quand même. Hein. Il n'y a pas de shérif ici dans les forces de l'ordre. Non, non, non. Il y a en Suisse cette volonté de ne pas laisser la jeunesse livrée elle-même. N'est-ce pas? La Suisse, elle a pas peur de ses enfants. Hein. Et en plus, vous, les Suisses, vous pouvez prendre l'initiative d'une nouvelle loi. Vous êtes puissants, vous avez le pouvoir entre vos mains avec les votations. Et ça, vous pouvez en être fiers. Le tout, c'est de ne pas avoir de moufle ni de menottes au moment d'aller voter.
Radio FR. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Radio Fribourg.
Jamais 203.
Il vous pose la question depuis ce matin, on va lui poser aussi à lui, à Mike. Est-ce que tu es accro à ton téléphone, à ton smartphone?
D'après toi, Jonathan.
Moi, je dirais que oui.
Bah, forcément, je regarde les WhatsApp de mes auditeurs depuis très tôt ce matin. Voilà. Je leur pose des questions, je suis obligé de regarder
même
les réponses.
Pendant une chronique.
Ça fait de moi un accro à mon WhatsApp, effectivement, et à mon téléphone tout court. Bah, tiens, on vient de recevoir un message de Véro qui nous dit, alors je sais pas si je suis vraiment accro au portable. Par contre, je suis accro à Indochine. Merci d'avoir passé cette chanson. Et puis, si je peux donner un verdict général de tout ce qui m'est arrivé ce matin, oui, franchement, la plupart de nos auditeurs sont accros à leur téléphone. Alors, ceux qui le disent très honnêtement, qui ne peuvent pas s'en passer, et d'autres qui sont là, oui, tu vois, alors oui, effectivement, je l'ai toujours avec moi, oui, alors j'envoie des WhatsApp, on ne peut pas dire pour autant que je suis accro. Voilà.
C'est important de l'avoir avec.
Ouais. Et puis, chez les chroniqueurs de Jamais 203, Marie, par exemple, toi qui as trois grands-enfants chez toi.
Je pense, alors, ils sont tous accros.
Tous accros.
Et moi...
Chaque fois que j'ai essayé d'atteindre Marie pour quelque chose qui concerne la coordination de cette radio, elle n'a jamais répondu.
Ah.
Donc elle n'est pas accro. Non.
Merci.
Bon, Jonathan, en règle générale, au bout de 5-10 minutes, il réagit sur le WhatsApp. Donc, moyennement accro, je pense.
Ouais. Hein. Moi, je suis moyennement accro. Ouais. Ouais, ça va.
Mais ça dépend, en fait. C'est pas aussi quand tu es capable de t'en passer pendant un laps de temps quand même relativement long.
On a eu l'occasion d'en parler dans l'info. Il existe des cures de désintoxication par rapport à tout ce qui est appareil électronique. Et des ados qui sont sévèrement atteints. On les envoie dans des camps comme ça pendant une semaine où il n'y a pas un téléphone. Je sais pas dans quel état ils sont quand ils reviennent. Hein.
Il y a même à l'école. Oui, maintenant ils font des semaines. On peut participer à des semaines sans téléphone.
Exactement.
Tout à fait.
Il y a deux questions ce matin. C'est est-ce que vous êtes accro ou non à votre smartphone? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous est-il déjà arrivé de faire des bêtises avec vos téléphones? Attention, hein, du genre, je ne vais pas faire les malins pour un selfie ou pour récupérer un smartphone en fâcheuse posture. Certaines personnes sont prêtes à n'importe quoi pour briller sur les réseaux sociaux. Hein. Par exemple, j'ai fait ma petite revue de presse, hein, j'ai lu dans le 20 minutes d'hier, le selfie romantique vire au drame. Deux amoureux étaient en train d'admirer le panorama depuis le sommet d'une falaise à Villaricos, le long de la Costa del Sol. Et au moment de prendre l'incontournable selfie, le couple s'est appuyé contre la balustrade en bois. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. La balustrade a cédé. Les deux malheureux ont basculé dans le vide et ils ont fait une chute de 30 mètres.
Oh, quand même, hein,
30 mètres. Elle est terrible, cette histoire. Mais je vous rassure, ça s'est bien terminé pour ce monsieur et cette madame. Ils sont tombés non pas sur les rochers, mais sur une couche d'algues très épaisse.
Fort heureusement.
Et puis une gamine qui passait par là a miraculeusement donné l'alerte.
Ils ont perdu leur smartphone.
Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Mais franchement, si j'avais pas lu cette histoire dans un journal très sérieux comme le 20 minutes, franchement, j'aurais cru à une blague ou un mauvais feuilleton. Hein, du genre, vous avez le héros qui est mort et enterré sous 2 tonnes de béton. Vous vous dites, mais comment c'est qu'il va se sortir dans l'épisode suivant? Parce que vous savez que l'acteur a signé un contrat de 5 ans avec la production. Et ben, le lendemain, vous apprenez que le mec, il n'était pas mort, il était juste KO et que les ouvriers qui devaient couler le béton se sont mis en grève au dernier moment.
Ou bien c'était MacGyver, puis lui-même, même emmuré dans du béton, il arrive à en sortir.
C'est vrai.
Avec l'ongle.
On se croirait dans Demain nous appartient, tellement c'est téléphoné. Ah, tiens, nos chers téléphones, je propose qu'on y retourne. Hein, c'est maudits smartphones pour lesquels on est prêt à faire les pires bêtises. Figurez-vous qu'il y a plus fort encore que le couple qui est tombé d'une falaise pour un selfie. Attention aux personnes les plus sensibles, hein, parce qu'il y a la randonneuse qui a plongé dans le caca pour récupérer son téléphone. Toujours dans le 20 minutes, notre journal référence, c'est paru le 26 avril dernier, on apprend qu'une Américaine qui venait de faire l'ascension du Mount Walker a été prise d'un besoin pressant et la randonneuse que nous appellerons Brenda se rend dans une petite cabane en bois prévue à cet effet, elle fait ses besoins et là, c'est le drame, hein, comme ils disent dans les reportages sur M6, le téléphone tombe dans la fosse. Bah oui, une cabane en pleine forêt, forcément, c'est un peu rustique, hein, faut pas vous attendre à une cuvette guébérite, hein, c'est du rustique. Vous voulez que je prenne la voix M6, là, pour faire la suite?
Ouais, volontiers, oui, faut que ça soit dramatique.
Brenda veut absolument récupérer son téléphone. Elle utilise pour ce faire la laisse de son chien. Hélas, ses tentatives sont infructueuses. Il lui vient alors l'idée d'attacher la laisse à la porte et de descendre en rappel dans la fosse. Une fosse, est-il utile de le rappeler, pleine d'excréments humains. Ce qui devait arriver arriva, la laisse cède et Brenda tombe dans le caca. La matière est tellement glissante qu'elle n'arrive pas à remonter. Brenda est prisonnière de la fosse. En plus d'être insupportable pour ses narines, les émanations sont toxiques. Elle risque de causer sa mort à brève échéance. Je la fais bien la voix M6 quand même. Ah, je crois que je vais faire voix
côté dramatique
sur M6. Sérieux, tu peux mourir dans le caca.
Oui, dégueulasse.
Non, mais il y a de l'ammoniac, je sais plus, il y a
méthane.
Du méthane, non, c'est terrible. Bon, j'arrête un moment la voix M6, hein, je vais me casser les cordes vocales. Comment est-ce que Brenda a réussi, selon vous, à s'en sortir? Parce qu'elle s'en est sortie, hein. J'ai dit, les histoires se terminent bien. Faites preuve d'imagination, comme les scénaristes de demain nous appartiennent. Allez, c'est à toi, très chère Marie.
Alors, elle a crié au secours, son chien.
J'ai crié, sors-moi de ce caca. Non, c'est pas ça. Jonathan, une proposition.
Un hélicoptère qui est arrivé, MacGyver était au bout et il l'a sauvé depuis la cheminée de la maison.
C'est vachement meilleur que moi.
En fait, c'est tellement plus simple. Elle a retrouvé son téléphone.
Et elle a appelé les secours.
Elle a pu appeler les secours. Les pompiers sont arrivés. Ils l'ont hissé avec un treuil. Ils l'ont aidé à faire sa toilette. J'imagine que la lance à eau des pompiers a été très utile. Qu'est-ce qu'il a raconté, ce chef des pompiers qui était là? Il en revenait pas. Je fais ce métier depuis 40 ans et c'est une première. Faut dire qu'à 40 ans, les smartphones n'existaient pas. On était quand même moins dans la merde.
Absolument.
C'est joli ça.
Ça tombe bien parce que semble-t-il qu'on va nous parler de la crise de la quarantaine dans quelques instants. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
C'est ça, voilà. Bon. Ce sera juste après un point sur l'actualité.
Le vieux quinquagénaire que je suis va écouter ça avec beaucoup d'attention. Hein.
Moi, je
suis en pleine crise de la quarantaine si jamais. Hein.
Et puis, une enquête musicale de Jonathan également tout à l'heure. Hein.
Ça sera un blind test ce matin pour vous. Je vais vous faire jouer.
Tout le monde pourra jouer. Tout le monde pourra jouer sur le WhatsApp de Radio Fribourg. La suite après l'info, comme l'a dit.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
À l'ombre du baobab, avec Thierry.
Thierry Savary avec ses invités. Quel âge là? On en parlait tout à l'heure justement avec Mike. Et puis ils sont venus accompagnés de leur guitare. Je sens que ça va swinguer. Bonjour à vous tous.
Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Vincent et puis Samba qui nous ont rejoints aujourd'hui dans nos studios pour la première fois ici à Villars-sur-Glâne. On se voit de temps en temps, une fois par année à peu près.
Oui, mais
peu de choses près, hein, c'est ça.
C'est un rendez-vous agréable. Sauf que là, effectivement, on est tous surpris.
Ça a changé.
On ne voit pas les lieux.
Exactement. Et puis vous êtes venus avec vos guitares. Vous allez nous jouer tout à l'heure. Quelques titres, bien sûr. Alors, extrait d'un de vos albums, j'imagine. On va s'arrêter un petit peu. Vous êtes là parce qu'en fait, vous êtes aussi en tournée. Vous avez déjà achevé une première partie, je crois, Vincent. Vous allez poursuivre par la suite.
On vient d'avoir une belle série de concerts avec Caladula en quartet, où on rejouait essentiellement notre dernier CD, Mandekulu, accompagné par la contrebassiste de jazz Hélène Labarrière et puis le violoniste breton Jackie Mollard. Et puis là, on reprend la route à deux, donc d'un seul coup, on se sent tout de suite plus léger, faut le dire quand même. Et là, c'est plutôt des concerts en lien avec notre engagement pour Médecins Sans Frontières.
Oui.
En fait, des dates, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure.
On en reparlera, bien sûr. Hein. On vous connaît, comme je le disais, depuis quelques temps. Vous êtes avant tout déjà un duo de guitaristes. Alors, malien, Vincent n'est pas tout à fait malien, mais presque. Hein. Maintenant, Samba, on pourrait dire qu'il est presque malien.
Il est malien, Vincent.
Il est malien.
Ouais,
Il est malin et il est malien.
Il a un nom malien déjà qui s'appelle Adama Diarra, donc voilà, il est malien.
Et Adama Diarra.
Voilà, c'est ça. Et puis je dois dire que Samba, ça fait longtemps qu'il est plus valaisant que moi, je pense.
Ah ouais.
Il a été adoubé.
D'accord. Et Samba, tu as aussi un nom valaisant? On t'a donné un nom au valet.
Non, alors, moi-même, je me suis donné un nom au valet.
C'est vrai.
Ouais.
Qui est ?
Philippe.
Ah d'accord. C'est très valaisant ça, Philippe. Voilà. Samba Diabaté et puis Vincent Zanetti qui forment ce duo Caladjula, duo qui s'était enrichi à l'occasion de l'enregistrement du dernier album et d'un certain nombre de concerts que vous avez fait. Alors c'était l'idée aussi d'offrir quelque chose de différent un peu à votre auditoire.
Mais d'une part, il y a ce souci d'universalité, parce que c'est vrai que notre musique, elle plonge ses racines dans un patrimoine qui existe, hein, la musique des griots, la musique mandingue, mais en même temps, là-dedans, il y a du jazz, il y a du blues, il y a beaucoup d'autres choses, des musiques qu'on aime et qu'on joue. Donc, on se nourrit à tout ça. Et le fait d'ouvrir le duo dans différentes formules, c'est pour nous très important parce que ça permet de nous confronter, de chercher, d'enrichir la démarche. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé, paradoxalement pour le dernier disque, à être encore plus influencé par la nature du mandé, les éléments, les rochers, les arbres, le fleuve, Niger et tout ça, le paysage, et puis d'être sensible à ce que j'appelle moi la voix des djinns, cette inspiration qui vous vient, mais qui peut vous venir ici, dans la montagne, hein, dans la forêt. Mmh. C'est la nature, elle parle pour qui veut bien l'écouter. Et ensuite, c'est pas si évident dans une époque hyper connectée de trouver des gens qui sont à l'écoute, qui sont vraiment à l'écoute de l'autre et à l'écoute d'un projet. Et pour le dernier projet, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi, on a pris le temps de se tromper, de faire différents castings, et finalement, ce projet avec Hélène Labarrière et Jackie Mollard, il est extraordinaire parce qu'en concert, c'est vraiment Caladjula puissance 4, j'ai l'envie de dire. Ils sont complètement entrés dans notre démarche, et finalement, ils parviennent à exprimer des sentiments que j'ai envie de dire profondément mandingues, profondément africains, avec des instruments qui ne le sont pas du tout et eux qui ne le sont pas, qui prétendent pas l'être. Donc pour Samba et moi, on est très fiers de cette démarche-là.
Absolument.
Après, c'est sûr qu'à deux, encore une fois, on redevient plus léger, plus libre et puis encore plus réactif.
Possibilité de vous déplacer aussi de manière un petit peu différente, hein, en étant à deux, bien sûr. Ah, et oui. Toujours profondément ancré dans ce terroir, ce territoire aussi malien qui est vaste aussi, parce que c'est vrai que Samba, on parle du Mali, mais le Mali, ce sont aussi différentes régions, ce sont, j'imagine, différents peuples, différentes ethnies.
Oui, au Mali, il y a beaucoup différentes des ethnies là-bas. Il y a les Bobos, les Sénéfaux, les Mianga, les Peul, les Dogons, les Sarakolais, les Sorais, des Malengue aussi.
Oui, ça fait effectivement pas mal d'ethnies. Hein. Et autant de langues. Autant de langues, oui. Qu'est-ce qu'on voit ?
Oui. Chacun a sa culture aussi. Mm. Chacun a son instrument de musique. Voilà.
Oui. Tu es, toi,
Samba ? Moi, je suis Mandingue.
Mandingue, ouais. D'accord. Et ta langue ?
C'est
le Mandingue.
Le Maneka.
Le Maneka.
Ouais, Maneka. Voilà.
Dans les bouquins, on dira Malenke, voilà. Mais Malenke, c'est le mot français. Nous, on dit Manenka.
Malenka, ouais. D'accord. Et toi, Vincent, tu parles aussi Malenka?
Alors, je me débrouille suffisamment pour pouvoir...
Kakanawa. Voilà.
Normalement, le matin, on commence toujours par se saluer. En fait, entre Samba et moi, on joue sur deux tableaux culturels, constamment. Mais sans réfléchir. Les deux s'enrichissent constamment. Et c'est vrai que ça commence à la manière mandingue parce que c'est une de ces sociétés où les gens ont besoin de se reconnecter les uns aux autres. Justement, tout le contraire de ce qu'on fait dans le train quand on part au travail ici, où on se connecte sur notre iPad. Là-bas, en fait, tout le monde se salue et échange des politesses. Et donc, on commence. Idiobaté, Enisorma, Elesila.
Et on prend des nouvelles de la famille, c'est ça? On prend des nouvelles des amis, de la famille, etc. Ouais, c'est une façon. Il y a d'autres civilisations qui disent bonjour à la nature, au soleil aussi, le matin, etc. Des rituels finalement qui nous permettent de nous reconnecter aux éléments principaux, hein.
Oui.
Primordiaux. on va dire.
Oui, et puis bah, du coup, nous, c'est ce qu'on cherche aussi dans notre musique. Et je pense que ce qui touche le public de Caladiola, c'est ce côté de partage et encore une fois d'universalité. Le fait de le jouer sur des guitares, ça rend la chose accessible à tout le monde. Nous, ça nous ouvre énormément la palette sonore, parce que c'est quand même plus facile sur des guitares que sur des ngoni traditionnelles. Mmh. Enfin, on peut aller beaucoup plus loin, ouvrir les gammes, faire des choses qu'on pourrait pas avec des instruments traditionnels. Après, on utilise aussi, à certains moments, les instruments. Samba, dans le concert, prend le ngoni. Moi, je prends une kora, je finis au djembé. Voilà. Mais la guitare, ça permet de créer le lien tout de suite, parce que ça fait partie aussi de notre identité culturelle occidentale. La guitare, c'est vraiment l'instrument, je pense, le plus répandu.
Absolument, absolument. Bien, bah, si vous le permettez, on va vous écouter d'ici quelques instants. Vous êtes prêt à nous jouer quelque chose? Deux guitares, Samba Djabaté, Vincent Zanetti. Alors, on va juste faire quelques petites bricoles pour essayer de faire en sorte que les micros soient mieux positionnés sur vos guitares. Ah, c'est tout nouveau, hein, aujourd'hui. On fait des tests. Enfin, on l'a fait hier déjà. Malou avait reçu, Amaël avait reçu aussi un certain nombre d'invités qui jouaient. Je crois qu'on peut le baisser encore un tout petit peu de façon le plus possible, voilà, de façon à ce qu'il soit le plus proche possible de la guitare. C'est tout neuf, hein. Vincent a essayé de croiser.
En fait, il faudrait deux micros, un en haut pour la bouche et puis un en bas pour la guitare.
Mais il ne chante pas aujourd'hui. Voilà, ouais, ce ne sont que des guitares. On va essayer de baisser le maximum le micro. Voilà, merci beaucoup.
Heureusement que Pierre est avec nous.
Oui, hein. Pierre nous aide, nous soutient. Alors j'espère que ça va aller pour vous. Ça joue comme ça, vous êtes à l'aise? Vous êtes à l'aise? C'est bien.
Oui, bon, ça a l'air, eh bien, hein,
on va vous écouter. Caladiola avec Vincent Zanetti, Samba Djabaté. Puis vous nous parlerez du morceau après l'avoir, bien sûr, entendu, écouté avec beaucoup d'attention. Caladiola sur Radio FR. nouveau. Public nombreux, hein, comme vous pouvez le constater, qui sont venus assister à votre concert. Voilà. Excellent, Vincent Zanetti, Samba Djabaté, Kala Djoula, pour un morceau magnifique, un morceau tout en finesse, en tendresse aussi. Il y a beaucoup d'amour dans cette musique, Vincent.
Énormément, énormément. Alors là, justement, typiquement, je pense que là, on peut faire la recette Kala Djoula à partir de ce morceau. Il y a des compositions. Des compositions à 100% à partir de rien du tout, évidemment. Mais il y a aussi des morceaux comme celui-ci qui sont inspirés par un thème. En l'occurrence, c'est un thème de la confrérie des Donso, les chasseurs traditionnels. C'est la plus ancienne confrérie animiste d'Afrique de l'Ouest. Tous les Donso sont chasseurs parce que c'était eux qui pourvoyaient en viande, en fait, la société traditionnelle et qui protégeaient les villages. Mais tous les chasseurs ne sont pas Donso. Pour être Donso, il faut être initié au mystère de la brousse. Et ça, c'est un hymne des chasseurs qui parle d'un petit oiseau noir qui est près du fleuve, qu'on appelle Balakononifin. Et puis voilà, donc il y a tout un mythe là autour. Nous, on a repris ce thème et puis on en fait autre chose. On l'harmonise. Après, il y a quelque chose qui part du côté du blues et puis ça revient. Et puis il y a un élément de danse. Donc, pour les gens qui nous entendent au Mali, par exemple, ils reconnaissent des éléments, mais ils savent à la limite même pas reconnaître d'où ça vient exactement. Mmh. Ça paraît comme quelque chose de neuf. On est en fait un petit peu dans un tout autre domaine, dans la même démarche qu'un musicien classique au 19e siècle qui s'inspire, un Bartok ou au début du 20e, qui s'inspire d'une danse traditionnelle hongroise et qui en refait autre chose. On fait la même démarche. Quant à l'amour, chacun de nos morceaux a une raison. On essaie de ne pas faire de nothing song, de musique pour rien. Chaque morceau est lié à un personnage ou à une cause. Et là, en l'occurrence, c'est un morceau qu'on fait pour un de nos amis qui nous a accompagnés dans des concerts qu'on donnait dans les villages du Mandé au Mali, qui lui-même faisait partie de la confrérie des chasseurs et qui est décédé et brutalement. Et c'était une manière pour nous de continuer à le voir danser et de le voir jouer. Et donc, on a appelé ce morceau Sadio Panin. Sadio, c'est son nom. Sadio Panin, ça veut dire Sadio s'envole. Et voilà, c'est notre manière à nous de sublimer un deuil et d'en faire quelque chose de positif et de fort et de souriant et qui nourrisse notre auditoire, le public et les gens qui veulent partager ça.
J'ai remarqué Samba, en tout cas lorsqu'il joue, Vincent aussi, mais Samba a toujours le sourire. On a l'impression que la musique, non seulement l'habite, l'emporte, mais enfin le fait grandir aussi. Alors c'est vrai que il y a ce sourire en permanence. Et c'est un bonheur de jouer Samba.
C'est un bonheur de jouer, surtout un bonheur de jouer avec Vincent.
Mm-hmm.
Parce que, ouais, c'est vrai, parce que tu veux la musique, c'est quelque chose. Quand tu fais la musique avec quelqu'un, il faut que ça te parle. Ça vous parle tous les deux, quoi. Donc, lui, c'est qui me fait, ça me parle. C'est que je fais, ça le parle aussi. Donc, du coup, pour moi, c'est toujours un bonheur de faire de la musique et de jouer avec Vincent.
Ben oui. Et lorsque vous êtes au Mali, hein, puisque vous jouez aussi au Mali, bien sûr, occasionnellement, de temps en temps, on reviendra sur le Mali tout à l'heure, les populations du Mali, les différentes populations aussi, vous reçoivent avec un grand sourire, à bras ouverts, puisque vous êtes aussi parfois en train de travailler à la fois dans la tradition, mais de la transformer un peu, de l'actualiser, de la mettre aussi à votre goût, au goût d'autres personnes, j'imagine. Vous êtes aussi des gens qui travaillent ce patrimoine, qui le fait évoluer et vivre. Alors comment est-ce que vous êtes ?
Alors ça dépend de ce qu'on veut présenter. Au départ, les concerts qu'on a fait dans les villages étaient des concerts dans lesquels il y avait beaucoup plus de percussions. Moi, j'ai pas touché la guitare, par exemple. J'étais vraiment au djembé ou au tamani, le tambour des selles. Et puis il y a la danse. Et donc on est plus nombreux, ça bouge. Il y a un chantre de la confrérie des chasseurs, justement, un grand ami à nous, un frère en fait, Sidi Kiba Koulibaly, qui chantait des chansons dont on avait composé ensemble, écrit entre guillemets les paroles, des chansons sur des problématiques importantes, sur les feux de forêt, sur les feux de brousse, j'entends, sur la vente des terres, parce que c'est vraiment absolument incroyable ce qui est en train de se passer maintenant au Mali, par exemple, où on vend la brousse. Donc les gens comprennent plus rien, absolument plus rien. Du jour au lendemain, c'est des hectares qui sont vendus à des gens qui sont à Bamako et qui commencent à spéculer sur ces terres, à vendre ça, des hectares de forêt qui sont vendus à des entreprises chinoises qui débitent le bois en carré. C'est juste complètement affolant, là. C'est un cancer galopant. Donc c'est important d'en parler, c'est important de casser les tabous et puis de se réunir et de poser les problèmes. Évidemment, la question du racisme, la question de l'émigration aussi, parce qu'on est, et encore plus maintenant, c'est tout le paradoxe de cette histoire, l'Europe se ferme. Ok, je comprends bien ce réflexe, c'est normal, je juge personne. L'Europe se ferme parce qu'on dit il y a plus de place. C'est ce que dit Trump aussi aux Sud-Américains, on est plein. On l'a déjà entendu en Suisse à une certaine époque, le bateau est plein. Mais faut pas oublier qu'au même moment, on utilise les ressources de ces pays-là et puis qu'on fait partie d'un même corps. Et à partir du moment où on garde le Mali la tête sous l'eau et qu'on le met en quarantaine et qu'on dit non, il faut pas aller là-bas, faut pas investir, c'est trop dangereux. Ça fait maintenant depuis 2012 qu'on entend ça. Moi, par exemple, en tant que journaliste spécialisé des musiques du monde, au niveau de la RTS, j'ai pas l'autorisation d'aller faire un reportage au Mali, parce que c'est les assurances qui vont nous dire non, n'y allez pas. Donc on est dans le paradoxe absolu. Donc j'y vais, moi, en tant qu'indépendant, musicien, évidemment, je fais tout le contraire. Et c'est super important d'aller vers les gens qui vivent. Le Mali, c'est 6 fois la France. Donc il y a des régions, le Mandé, dont on parle dans notre musique, c'est une région qui est plus grande, nettement plus grande que la Suisse romande. Et la guerre n'a pas mis son pied là. Alors oui, il y a des armes, oui, il y a des choses comme ça parce que le pays est déstabilisé. Mais donc on prend des précautions. Mais c'est beaucoup moins dangereux que les États-Unis. Il faut arrêter. Aux États-Unis, il y a des tueries tous les 2 jours. Et c'est si on mettait les mêmes règles pour mettre un pays en quarantaine sur les pays européens qu'on met maintenant sur les pays africains, excusez-moi Thierry, on n'irait plus à Paris. Hein. C'est fini parce que il y a tous les éléments de violence urbaine, de déstabilisation, les attentats du Bataclan, tous ces trucs-là. Et il faut bien se rendre compte que quand on met en quarantaine le Mandé parce qu'il y a la guerre à Bamako ou à Gao, c'est exactement comme si, suite aux attentats du Bataclan, on fermait le canton du Valais en disant non, plus de tourisme parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et donc on tue des économies, on tue des sociétés et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des solutions, ils cherchent à sortir, ils cherchent à partir. Ils veulent pas rester asphyxiés dans leur pays. Et en fait, il faudrait faire tout l'inverse. Il faudrait faire tout l'inverse. Il faudrait être là, solidaire, faire des écoles partout, repenser tout le système scolaire. Les enfants, ils sortent de village Sénoufo ou Bambara et ils se retrouvent à devoir faire les premières classes en français. Ça veut rien dire pour eux. C'est la colonisation qui continue. Assumée, complètement assumée. Et Samba et moi, par rapport à ça, on est franchement révoltés. Alors on le dit
en colère.
En colère. Oui, d'une certaine manière, mais on n'a pas l'envie d'avoir une réaction colérique. On a justement l'envie de distribuer de l'amour. Parce que je pense que c'est la seule chose qui peut... Notre colère, elle peut rien. Par contre, l'amour dans la musique, ça...
La puissance de l'amour. Hein.
Ouais, je pense qu'on peut infiltrer même les plus durs. Et c'est pour ça, en fait, que Médecins Sans Frontières a fait appel à nous. Parce que nous, on n'a aucune parole dans notre musique. On a juste des sentiments et on raconte.
Vous transmettez des émotions avant tout.
Ouais.
On va parler de MSF d'ici peu. On se retourne du côté de Caroline. On repart, j'allais dire en studio, mais nous sommes en studio. Mais on se retrouve d'ici quelques instants.
J'essaie d'envoyer la musique, mais elle n'a pas l'air de vouloir partir. Alors on va réessayer. Mais ça va venir, ça va venir.
Je pensais envoyer la pub en l'occurrence.
Mais en l'occurrence, il n'y en a pas, pour une fois. Alors je réessaye d'envoyer ce morceau. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Et quand voilà, on veut y aller.
C'est nouveau. Ah ben voilà, ça fonctionne.
C'est bon.
On vous écoute que la Jula sur un CD cette fois-ci, et puis on en parle tout à l'heure parce que c'est un morceau qui est en lien avec entre autres MSF et toute cette aventure que vous vivez ces temps-ci. Je ne sais pas si j'ai prononcé juste.
Dia Ebana.
Voilà, extrait d'un album de Kala Jula, qui sont nos invités aujourd'hui, hein, Samba Djabaté et puis Vincent Zanetti. Alors, ce n'est pas le dernier album, on en a parlé en début d'émission, avec la participation, entre autres, de deux autres musiciens. Un violoniste.
La barrière à la contrebasse.
À la contrebasse, exactement. Ça, c'est l'album précédent. Finalement, on a choisi un titre sur cet album, puisqu'il correspond à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Où vous êtes engagé avec MSF, Médecins Sans Frontières, et ce morceau aussi, ce morceau nous parle, vous parle, et parle à tout ce que vous êtes en train de faire, ne serait-ce que par la présence d'un chanteur dont tu parlais, je crois, tout à l'heure, Vincent, justement.
Oui, c'est Sidikiba Koulibaly, je suis en train de la confrérie des chasseurs. Mais en fait, ce qu'on vient d'entendre là, voilà, ça, c'est ce qu'on faisait dans les villages. C'est le type de concert. Ça bouge, c'est péchu, on est plusieurs. On sent bien, là c'est plus un duo, on est de nouveau sur un groupe, mais alors là par contre c'est vraiment la version malienne. À part moi, il y a que du malien. Et encore quand je dis à part moi, c'est
malien. Bah oui, demi-malien. Demi-malien, en l'occurrence.
Non, mais c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on infuse tous les deux dans ces deux cultures, et puis puis voilà, on joue tous les codes à fond. Mais il y a une actualité par rapport à ce qu'on vient d'entendre, dans le fait où, là, ça fait maintenant depuis des années, depuis quoi, 2013 ou 14, je ne sais plus, qu'on n'a pas rejoué avec Sidi Kiba.
Oui, 14, je pense.
Ouais. On avait joué, on avait eu l'énorme bonheur de jouer au musée du Quai Branly, sur la grande scène, et d'être filmé par Arte avec lui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir hein, encore aujourd'hui. Nous, on a placé, je ne sais pas si j'avais le droit de le faire, mais bon, je l'ai placé sur YouTube, tout le concert, hein, parce que voilà, après tous les droits, c'est nous qui les avons, donc on ne va pas se gêner, puis il faut partager ça. Mais il y a la chanteuse Rokia Traoré, qui est à l'origine d'un très beau projet à Bamako, au Mali. Elle a créé une fondation, la fondation Passerelle, pour aider des jeunes artistes, toutes catégories, musiciens, mais aussi danseurs, aussi tous les arts, en fait tous les arts vivants, arts plastiques également. Elle est plus dans la musique, évidemment, bien sûr. Elle a créé une fondation qui s'appelle Passerelle, et puis elle a un festival qui va commencer tout prochainement et qui se déroule jusqu'au 27 avril. Et pour le concert de clôture le 27 avril, elle a invité Kala Dioula. Et pour nous, c'est l'occasion de réinviter notre ami Sidi Kiba Koulibaly, parce que ça fait sens, encore une fois, et d'amener là, à Bamako, une voix qui vient du fond de la brousse, du Mandé.
Donc lui va venir, effectivement, d'assez loin pour pouvoir participer à ce concert avec vous.
Oui.
Et lui, alors, en l'occurrence, quelle est son actualité? Que fait-il, en règle générale? C'est un magnifique chanteur, on l'a entendu.
Alors, lui, il souffre, hein. Lui, il souffre. Samba.
Samba, ben, c'est vrai, parce que ça nous donne l'occasion de parler des musiciens au Mali qui aujourd'hui, souffrent beaucoup.
Oui, Sidi Kiba, il souffre beaucoup parce que... D'abord, où il est pour faire, quand il joue, tu ne gagnes pas assez déjà. Donc, c'est un problème. Et puis, en plus, avec la guerre qui nous a amené la crise, donc, c'est pas facile pour lui. C'est pas du tout facile pour lui. Et puis, il commence à avoir un peu le problème de santé. Donc, c'est dur pour lui, vraiment, quoi. Vraiment.
Et comme pour beaucoup d'autres artistes hein, qui aujourd'hui ne peuvent malheureusement plus véritablement jouer, ne serait-ce que par le fait que bah, d'une part il y a toute cette problématique liée à la guerre aussi, mais aussi les sound systems, les gens qui les DJ etc. qui prennent la place aussi des musiciens.
Bien sûr, et ça même jusque dans les petites villes. Hein.
Mais bien sûr, même moi, si c'est pas le projet Kala Dioula, si je fais pas le Kala Dioula, à Bamako s'est trouvé que j'ai fait d'autres travaux.
Parce que autre chose que de la musique.
Autre chose que de la musique. Mais c'est par rapport à les tournées que je fais à Kala Dioula, c'est ça qui permettait que j'arrive à nourrir ma famille et voilà, Bamako, quoi. Donc, c'est grâce à ces tournées que moi, je continue la musique. Sinon, si j'avais pas ce projet, j'allais faire autre chose. Parce qu'il y a la crise, on n'arrive pas à nous engager. C'est compliqué.
Ouais, alors que le Mali, hein, paradoxalement, une fois de plus, Vincent, est un pays extraordinaire culturellement parlant. C'est un des berceaux de la musique africaine, Afrique de l'Ouest certes, mais avec aussi un niveau très élevé. Hein.
Mais c'est aussi parce que la musique exprime beaucoup de choses, et puis parce que de tout temps, il y a eu, au niveau des volontés de légiférer les différentes sociétés traditionnelles, il y a toujours eu des échanges, des croisements. Quand on parle d'ethnie, faut imaginer. Nous, on n'aime pas ce terme d'ethnie avec Samba, parce que ou alors on l'applique à tout le monde encore une fois. Et puis on admet qu'en Valais, par exemple, il y a deux ethnies au moins. Il y en a une dans le haut, il y en a une dans le bas. Non, parce que c'est exactement ça.
Bah oui.
C'est exactement ça. Et puis quand on passe le Rhône du Valais au canton de Vaud, on change d'ethnie aussi parce que c'est une autre culture. Et puis que c'est une ethnie qui a été colonisée par encore une autre et qui explique qu'il y a plein de noms bernois dans les familles vaudoises, on est protestants, etc. C'est ça qu'il faut voir. Et chaque fois qu'on parle de guerre ethnique, il faut penser, il y a pas si longtemps que ça, on faisait les Jeux Olympiques à Sarajevo et on fêtait l'amour et la paix dans une république dont on se disait, voilà, c'est bingo, c'est un bel exemple de peuples qui vivent ensemble. Mm-hmm. Et quelques années après, ces mêmes peuples se déchiraient.
Ouais.
Et ça peut nous arriver demain. Il faut juste se rendre compte de ça. C'est à nous, chacun de nous, d'aller au-delà de nos petits égos et d'admettre que l'autre, n'importe lequel autre chez nous a droit de donner son avis, et il faut le partager et puis arrêter de polariser les débats. Je pense que ça c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, pour ça, nous on sait rien faire d'autre, Samba et moi, que de la musique, mais au moins l'exemple, il est très clair, parce que Samba et moi, ça se voit peut-être pas en radio, mais on a évidemment pas la même couleur de peau.
Ça, vous n'êtes pas du haut et du bas valet, c'est sûr.
Ou alors de très haut et de très bas.
De très haut et de très bas, oui.
Tout ce qui nous aurait. Mais voilà. Et en plus, on bouleverse les codes, puisque c'est Samba qui est le guitariste liste. Moi, je passe au djembé, je passe à la kora. On casse les codes.
Ça y est, vous semez le trouble dans la communauté malienne. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, dans la communauté malienne, actuellement, il y a des troubles.
Oui, ça oui, effectivement.
Il y a des troubles, parce que, tu vois, c'est ce qui se passe maintenant. Franchement, c'est inquiétant, et moi, ça me fait du mal. Ça me fait tellement du mal, je vois pas la solution. Je vois mon pays, il est en train de s'écouler, et pour moi, la seule solution, c'est de pleurer.
À l'heure actuelle?
Ouais.
Oh, j'espère qu'il y a d'autres solutions, cela dit, mais...
Bon, mais en tout cas, pour moi, la seule solution que je vois maintenant, c'est de pleurer pour me soulager. Parce que j'ai pas la solution, et je vois ce qui se passe, ça me plaît pas du tout. Donc, ça me touche que je vois mon pays à cette manière, à ces situations-là. Donc, pour moi, la seule solution, c'est de pleurer.
Mais tu retournes quand même. Tu continues à vivre, par contre, au Mali, puisque tu fais les allers-retours entre la Suisse, l'Europe et le Mali.
Je n'ai pas le choix, parce que... d'abord, je n'ai pas le permis pour résider en Suisse. Et puis, j'ai de la famille aussi au Mali, donc je fais l'aller-retour. Je travaille pour pouvoir nourrir ma famille qui est là-bas aussi.
Exact. Et tu as une femme aussi qui est au Mali, qui est une artiste, qui est une chanteuse, que tu accompagnes également. Bien. Donc il y a aussi toute une vie, à tout point de vue, une vie sociale, une vie culturelle qui se poursuit aussi au Mali.
Oui. Il faut, tu m'excuses, hein, Samba, mais il faut dire aussi qu'on pourrait imaginer que Samba vive en Suisse et soutient tiennent sa famille depuis là. Il y a plein d'autres gens qui le font.
Ils le font, oui.
Mais encore une fois, après, il y a des choix. Se donner à la musique comme on le fait, c'est quand même... ça demande une concentration de tous les jours. C'est pas un petit travail. Et donc, il faut pouvoir en vivre. Et nous, en fait, si on veut pouvoir faire des concerts, on est obligé de les... On se retrouve dans un marché, tout simplement. Alors, voilà, là non plus, on n'a pas la solution. Mais le fait est, par exemple, qu'à l'heure où les gros festivals ramassent un maximum de subventions pour pouvoir faire des gros événements avec des très grosses têtes d'affiches, c'est vrai qu'à Paléo, on va proposer plein d'autres artistes, mais ce qu'on va nous payer, nous, par exemple, si on devait aller jouer à Paléo, c'est des cacahuètes par rapport à... Ça ne nous permettra pas de vivre. Et puis, en plus, on va se retrouver avec des contrats d'exclusivité qui vont nous empêcher de jouer dans le mois qui précède et dans le mois qui suit, dans d'autres endroits. Donc, il faut construire des... C'est vraiment des stratégies très, très difficiles, très, très lourdes. Donc voilà, on se bat comme on veut, on est finalement dans la situation un petit peu de musicien itinérant, et Dioula, ça veut dire ça, dans Kala Dioula, Kala, c'est, au départ c'était l'arc, mais ça peut être aussi le manche de nos guitares, et Dioula, c'est des gens, c'est des voyageurs, hein, c'est des gens qui doivent...
Des explorateurs aussi.
...dire de chez eux pour se réaliser, ça peut être des marchands, ça peut être des chasseurs itinérants, et ça peut être nous, des musiciens, Kala Dioula, on est vraiment comme ça.
Bien. Kala Dioula, on va vous écouter en live, si vous le voulez bien, encore une fois, puisque on va demander à Pierre de nous donner un coup de main. Il est précieux, Pierre, hein, Caroline. Quelle chance de l'avoir.
Ouais, allez hop, au boulot.
Ben oui.
Bon, faut lui faire bosser les stagiaires, autrement ça sert à quoi. C'est... Il devient tout rouge.
Mais il est précieux. Comment, Vincent?
Je
vous
explique.
Ah, voilà. Il nous explique en deux mots, donc on va lui rallumer son micro aussi.
Ouais.
Oui, c'est mieux, voilà Vincent.
En deux mots, ce qu'on va jouer maintenant, c'est un morceau qui est inédit, qui est une commande de Médecins Sans Frontières. Après, on
parlera justement
de cette collaboration.
De votre rapprochement
ça,
avec Médecins Sans Frontières.
Ça raconte une histoire de migration, et le morceau s'appelle « La voix de mes blessures ».
Bien, la voix de mes blessures pendant que Vincent Macron reprend sa guitare. Samba, il est déjà prêt, lui. Hein. Il n'a pas lâché sa guitare. Et oui, c'est ta deuxième femme au samba. Voilà, il y a ta femme que tu accompagnes. Et c'est l'arme de guerre. Alors, une belle guerre. Ça, ce sont les guerres, entre guillemets, que l'on apprécie. Je crois qu'on est tout bon, là, Vincent et Samba, Caladjula, en live sur Radio FR à l'ombre du Baobab. On vous écoute. Merci beaucoup. Et ça sonne bien, hein, en plus. Je dis ça sonne bien, en règle générale, lorsque vous jouez, ça sonne bien, mais ça sonne bien aussi ici, hein, finalement. C'est plutôt sympathique, quoi.
On part en vacances.
On est dans un environnement, un univers aussi, qui nous transporte, non seulement ailleurs, mais à tout point de vue, hein, pas seulement géographiquement, mais aussi sur le plan émotionnel. Et c'est vrai que vous transmettez beaucoup à travers vos instruments, à travers votre musique samba, toujours avec autant de plaisir et autant de bonheur. Ça, c'est un morceau que vous avez, entre autres, composé pour MSF. Cela dit, juste sur la musique malienne, parce que là, on a entendu effectivement pas mal de choses. Hein. Tu parlais, Vincent, de blues un peu tout à l'heure. On connaît le blues malien. Le Mali étant un territoire véritablement qui a ouvert aussi les portes de la musique africaine, d'Afrique de l'Ouest aux Occidentaux, mais qui a véritablement aussi mélangé pas mal de choses, hein, pas mal, a digéré pas mal de choses pour en faire quelque chose de nouveau avec cette connotation malienne. C'est difficile de décrire samba, la musique malienne. Il y a énormément de musique issue du Mali.
Alors, il y a
autant que de population, finalement.
Il y a beaucoup de musique différente au Mali, franchement. Comme je t'ai dit au début, chaque ethnie a sa culture, sa musique. Et puis, il y en a tellement, je connais même pas tout. Hein.
Oui, c'est faire le tour de la musique du Mali, c'est compliqué.
Ouais. Et chacun a sa posture par rapport aux musiques, chacun a ses attentes. Et tout à l'heure, tu nous posais la question de savoir comment les gens recevaient notre musique. Et on a écouté justement un extrait du disque pour dire, ben voilà, dans les villages, on joue ça. Mm-hmm. Quand on veut jouer Kaladula comme on vient de le faire, on le joue aussi, mais pas en concert. Ou alors, ce sera, oui, peut-être là, le 27 avril, justement, invité par Roquette Auré, on va le faire en concert. Mais c'est un peu spécial. C'est un cadre où, autour de nous, il y aura beaucoup d'artistes. Et puis, il y aura des gens, j'imagine, des expats aussi. Et puis, des gens qui viennent, qui peuvent se payer le fait d'aller voir ce type de concert. On est dans la capitale. Mais autrement, les gens dans les plus petites villes ne payeraient pas pour écouter ça. En revanche, ils l'apprécieront énormément si on va le jouer chez eux. Et donc, il y a des moments comme ça, pour nous, qui sont inoubliables, des souvenirs de veillée où on raconte les histoires qui vont avec les morceaux et on joue vraiment à la pleine lune, il y a du feu, quelqu'un qui prépare le thé, on mange ensemble tout tranquillement, et puis il y a des flopées d'enfants partout qui petit à petit s'endorment les uns sur les autres. Et c'est ça aussi, la musique, c'est... Alors, là-bas, c'est sûr, on est dans le... Du coup, de ça, on ne va pas pouvoir vivre économiquement. Mais par contre, on est aussi complètement pris en charge. On est nourri, on est logé.
Oui.
Et puis, alors, on est nourri émotionnellement, spirituellement.
Ce sont des moments de partage, finalement, de partage extraordinaire.
Voilà, et c'est ça qu'on essaie de ramener dans les concerts.
Mmh. Kaladula, en concert, tiens, puisqu'on parle de concert, je donne rapidement quelques dates. Là, vous venez d'achever une tournée, une petite tournée, et puis vous serez de nouveau sur la route. Enfin, vous jouez le 12 avril, c'est tout bientôt, c'est vendredi, au Salon du Bleu Café à Neuchâtel. C'est un concert MSF, justement, le vendredi 14 juin au Festival des 5 continents à Martigny, toujours un concert sous l'égide d'MSF. Le mercredi 19 juin, à Place du Manoir, 3 concerts pour les écoles. Là, c'est aussi à Martigny. Et les 7 et 8 juin, tiens, j'aurais dû commencer peut-être par ça, les 7 et 8 juin à Port-en-Truy, dans un festival qui s'appelle le Monde des Couleurs, si je ne me trompe pas.
Monde de couleurs.
Monde de couleurs. Et puis le 27 avril, pour les gens qui auraient l'occasion et l'envie de vous retrouver à Bamako, cette fois-ci, au Mali, dans un grand festival mis sur pied par Rokia Traoré, hein, qui, pour la petite histoire, est une des toutes grandes dames de la musique africaine. On dit toujours africaine, mais d'Afrique de l'Ouest, du Mali précisément, mais qui a en plus un fort engagement. Du reste, elle n'a pas fait grand-chose depuis un certain temps, discographiquement parlant. Elle vient de sortir un album. Elle est en train de travailler sur un album, mais elle a surtout beaucoup travaillé pour les causes qu'elle défend.
Exactement. Et bon, maintenant, je le disais tout à l'heure, c'est sortir un album, il faut qu'il y ait de bonnes raisons. C'est sortir un album, ça signifie avoir la tournée qui va avec, faire toutes ces alliances, etc. Faut bien réfléchir maintenant. Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'investir là-dedans? Est-ce qu'il faut viser autre chose? On est juste maintenant à un carrefour. Nous-mêmes, on n'a pas encore décidé si on a composé plein de nouveaux morceaux, mais on se presse pas pour enregistrer un nouvel album.
Eh bien, moi, je vous invite à venir les jouer ici, régulièrement. Hein tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bien, ben, on est déjà à la fin de cette émission. On passerait des semaines, des mois, des heures. J'aurais dû commencer par des heures, des semaines et des mois, voire des années avec vous, en parlant à la fois de musique et d'esprit aussi. Hein. Ce qui est important, Kaladjoula, pour en savoir plus, pour vous suivre, il y a un site, j'imagine, Kaladjoula.
En un seul mot, Kaladjoula, ça s'écrit Kaladjoula.ch. Là, il y a les dates. Je dois mettre 2-3 trucs à jour, mais on y est quasi. Et puis, via MSF, si jamais le projet s'appelle